Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être là sur votre radio, ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Vous savez que nous sommes au jeudi 4 juillet 2024, il sonne 11h sur votre radio. Vous comprenez que nous sommes dans le quatrième numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou-Vitogbe Tomega assure la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Géraud Dakoutia. Je suis Pascal Losso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takbamé, Sky FM à Badou, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde entier grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment Facebook, YouTube et autres. Et bien sûr, nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, Ambroise Kondo. Bonjour.
Oui, Pascal, bonjour. Bonjour les auditrices et auditeurs de Radio Canal FM, ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont dans la diaspora, qui nous suivent, qui sont nombreux à nous suivre. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour attirer l'attention de l'autorité compétente de la sécurité routière pour l'effort qu'ils sont en train de faire pour la régulation de la circulation au niveau des communes avec certains feux rouges qui sont installés de part et là. Mais il y a le feu rouge de Atikoumé qui pose toujours problème. Je l'ai déjà dit.
Tout à fait.
Aux quatre ministres, à l'hôtel Sarakawa le jour-là, que c'est le constat. Et les feux rouges sont là pour réguler la circulation, pour éviter qu'il y ait des véhicules, des usagers qui se cognent. Malheureusement, le temps que tu quittes à Idogomé pour arriver à Casablanca, si le feu rouge s'allume, tu peux faire pratiquement 45 minutes là-bas, ou 30 minutes. Et le jour-là, quand je l'avais dit, les responsables ministériels nous avaient dit qu'ils vont voir comment il faut aménager. Le lieu là-même pouvait abriter un échangeur pour faciliter la circulation. Je crois que cela même avait été prévu. Malheureusement, ça n'a pas été fait. On n'en a aucun échangeur chez nous au Togo. Ce dont on appelle échangeur là-bas, c'est un pont. Je voudrais préciser cela.
Vous voulez parler du consommement?
Ah, ouais, non, c'est un pont. Ce n'est pas un échangeur. Ceux-là qui se permettent de le dire, là, bon, je ne sais pas.
Peut-être que c'est un abus de langage.
Bon, heureusement que ce doit être un abus de langage. Donc, moi, je prierai l'autorité compétente d'enlever ces feux rouges-là. Parce que par le passé, depuis plus de 20 ans, 30 ans, c'est là où nous passons, il n'y a aucun problème. Quand ceux qui viennent d'Aïdo-Gomé arrivent, les gens s'arrêtent. Ceux qui viennent d'Atikoumé, ils s'arrêtent ou de Klikamé s'arrêtent. Et ça va. Actuellement, quand le feu vert s'allume, vous voulez partir, ah, vous allez voir les grimaces qui sont là. Et certains se cognent. Certains se cognent. Alors qu'il y a le rond-point qui est là-bas, ça crée encore un bouchon. Vous voyez ça? Donc, vivement que nous luttons pour la sécurité routière. La preuve, la une du journal des Guardians ce matin.
Tout à fait, on va en parler dans un instant.
Donc, j'aurais aimé que les autorités revoient ce feu rouge-là. 85 secondes, c'est déjà trop.
85 secondes, c'est déjà trop. Merci beaucoup, Ambroise, d'avoir interpellé les uns et les autres alors sur ce sujet de la sécurité routière. Je ne laisse pas alors notre ami Teko s'installer d'abord avant quand même de lui souhaiter la bienvenue. Bonjour, Magloire.
Bonjour à toi, Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Super, ça va, par la grâce de Dieu.
Dieu merci, nous as manqué.
Vous nous avez manqué également, vous savez que c'est toujours un devoir pour nous de nous prêter à cet exercice, celui d'interagir avec nos compatriotes sur différents sujets de l'actualité sociopolitique.
Tout à fait.
Ces derniers jours, j'avais tant voulu être là, mais vous savez, nous sommes des journalistes et avant tout des militaires, des combattants pour le bien-être de nos populations. Le devoir nous a appelés ailleurs, mais qu'à cela ne tient, j'étais de cœur avec vous. Aujourd'hui, tout va bien, je suis là et je suis ravi de partager ces beaux instants avec le plateau et avec nos auditeurs.
Merci beaucoup, Magloire, d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait toujours plaisir de t'avoir aussi dans cette émission. Alors, nous allons parler d'un sujet, un forum que notre capitale, Lomé, accueille depuis ce jeudi. Et c'est le Forum pharmaceutique international. Et pour en parler, je suis avec le docteur Mouzna Pacha Essohanam. Docteur, bonjour.
Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices. Merci de me faire l'honneur de m'inviter sur votre plateau.
Alors, docteur, merci aussi d'avoir répondu à notre invitation et merci aussi de se prêter à cet exercice alors de répondre à nos questions ici au Club de la Presse. Et ça fait toujours plaisir, bien sûr, de vous avoir. Je le disais, nous avons, il y a Lomé qui accueille depuis ce matin le Forum international, Forum pharmaceutique international et c'est bien sûr à Lomé que cela se passe. Concrètement, qu'est-ce que c'est ce forum, docteur?
Merci de me donner la parole. Le Forum pharmaceutique international, c'est un forum qui permet de mettre ensemble les acteurs du médicament afin de réfléchir sur les différentes questions touchant le médicament et l'accès aux médicaments. Donc aujourd'hui, se passe actuellement et en cours la cérémonie inaugurale au niveau de l'hôtel de Février. Et cette cérémonie est sous le haut patronage du président de la République, qui est représenté par la première ministre ou le premier ministre.
C'est la première ministre, les deux passent.
Représenté par le premier ministre. Et donc, nous accueillons actuellement 24 délégations qui sont avec nous pour réfléchir sur les questions liées aux médicaments et à l'accès universel aux soins.
Des questions liées aux médicaments et à l'accès universel aux soins, c'est de ça qu'il s'agit alors dans ce forum. Alors, en quoi cet événement est-il crucial alors pour les professionnels de santé que vous êtes et la population?
En fait, le thème du forum de cette année, c'est accès universel aux soins, défis et perspectives pour le secteur pharmaceutique. En réalité, l'accès aux soins passe par les hôpitaux, les centres de santé et les cliniques, si on peut dire, dans le parcours du patient, il va passer d'abord par le technicien de la pathologie, qui n'est autre que le médecin, les assistants médicaux et les infirmiers, et ensuite par le technicien du médicament, qui n'est autre que le pharmacien, qui rend disponible le médicament et qui explique au patient derrière comment utiliser ces médicaments pour les rendre efficaces et avoir le résultat escompté.
Alors, vous l'avez rappelé tout de suite, le thème, c'est bien assez universel aux soins, défis, enjeux et perspectives pour le secteur pharmaceutique. Alors, pourquoi concrètement vous avez choisi ce thème?
Nous avons choisi ce thème parce que il est d'actualité, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis janvier 2024, nous avons l'AMU, l'assurance maladie universelle, qui a été mise en place pour les travailleurs du secteur privé, public, et petit à petit, cette assurance maladie universelle sera déployée pour les travailleurs du secteur non formel et également pour les gens vulnérables. Donc, aujourd'hui, il y a d'autres pays qui ont eu une expérience beaucoup plus longue dans la mise en œuvre de cette assurance maladie universelle. Donc, l'idée derrière, comme nous venons à peine de commencer, nous avons pris ce sujet-là, qui est un sujet très important pour nos autorités, histoire de réfléchir autour de ces questions et voir comment nous pouvons, sur la base de l'expérience des autres pays de la sous-région et d'ailleurs, pouvoir améliorer le service que nous voulons rendre aux populations togolaises.
Je sais que au cours de ce forum ou pendant ce moment que vous allez passer dans ce forum, il y aura beaucoup d'activités. Quels sont les programmes qui sont à l'ordre du jour?
En fait, il y a des conférences, des tables rondes et les sujets sont nombreux. Et nous avons, entre autres, l'industrialisation pharmaceutique de l'Afrique pour aider l'Afrique à être vraiment autonome sur sa consommation en médicaments, entre autres le secteur les secteurs orphelins où on ne retrouve pas le pharmacien. Il y a également l'usage le bon usage et des médicaments, à savoir les antibiotiques aujourd'hui qu'on trouve, que la population utilise un peu à tort et à travers. Et également, il y aura des communications autour d'autres sujets qui concernent les maladies émergentes, à savoir le Covid et puis les maladies telles que la dengue qui sont en train de sévir actuellement dans notre pays. Et donc, c'est un peu résumé quelques sujets de discussion qui seront au programme au niveau du forum.
Alors, pour ceux qui vont participer alors à ce forum, quelles sont les conditions? Et d'abord, même d'ailleurs, qui sont peut-être alors ces gens-là qui peuvent facilement participer? Est-ce que la population, c'est un forum qui est ouvert à tout le monde, les professionnels de la santé et aussi la population, ou bien c'est restrictif?
Ok. Le forum est un forum ouvert à tout le monde. Il est ouvert à la population. Si elle s'intéresse aux questions qui vont être débattues, le forum est ouvert à tout le monde. Mais essentiellement, nous avons des acteurs qui sont dans la santé. On a des industries pharmaceutiques, on a les agences de promotion du médicament qui sont là, on a les corps médical, les médecins, les sages-femmes, les infirmiers et bien sûr les pharmaciens qui sont là pour dans le cadre de ce forum-là. On va pas parler des conditions sur le plan numéraire de participation, mais toujours est-il que tout le monde peut s'inscrire. Il y a un site pour cela, c'est le www.fpilomé2024.com. Donc, il est ouvert à tout le monde.
Il est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut facilement y participer. Oui. Alors, voilà pour ce qui concerne. Voilà, vous voulez ajouter quelque chose, madame?
Oui. Je voudrais juste rajouter que nous avons une tente qui a été montée sur le terrain juste en face de la sortie de l'hôtel 2 février. Où il y a des exposants qui sont là et qui attendent tout le monde. Tout le monde peut y passer et voir ce qui s'y fait.
Mmh. Alors, dans les discussions, je sais qu'il y a une thématique qui est retenue et ça m'intéresse bien, c'est la cosmétologie, c'est ça. J'ai bien prononcé.
Oui,
c'est bien ça. Oui. Alors, cosmétologie, qu'est-ce que c'est?
La cosmétologie, c'est... En tout cas, la science qui... c'est tout ce que l'on utilise pour embellir ou se rendre bien.
Oui.
En tout cas, s'embellir, tout ce qui est utilisé pour la peau, tout ce qui est utilisé, que ce soit par voie orale ou bien en topique, c'est-à-dire... J'ai des termes un peu techniques.
Techniques, justement. Pas de souci. Ça se comprend.
Tout ce qui s'utilise sur la peau ou bien de façon locale. Topique, c'est de façon locale. De façon locale pour embellir ou donner un paraître bien spécifique.
C'est-à-dire, quand on prend des produits cosmétiques que nous utilisons pour avoir
un teint, voilà, joli, et tout, voilà. Pour avoir une pousse de cheveux, tout pour avoir des ongles bien faits, pour... avoir des...
Bon. Tout quand même pour embellir. C'est très important. Alors, oui, finalement, sur cette thématique surtout, c'est quoi l'intérêt de cette thématique alors pour les populations?
L'intérêt de cette thématique, c'est qu'aujourd'hui, nous avons remarqué que tout le monde va vers cette filière-là, et on retrouve tout le monde, et il y a tout ce qui est proposé dessus, alors que c'est quelque chose qui devrait être réglementé, parce que c'est des produits qu'on utilise, qu'on avale, ou bien il arrive même parfois qu'on s'injecte pour avoir une apparence telle qu'on le voudrait. Donc, tout ce qu'on ingère ou qu'on applique sur la peau a des conséquences, soit à tout de suite, à moyen terme ou à long terme. Donc, nous avons remarqué que de plus en plus, tout le monde va vers là. Et ce sont des gens qui ne maîtrisent pas forcément les effets qui pourraient en découler. Et donc, cela crée des problèmes de santé publique. Et nous avons des gens qui viennent en pharmacie demander conseil. Et à des moments où c'est un peu tard, où il faut référer des fois vers le médecin et pour revenir et avoir le bon teint ou bien régler le problème qu'on a. On voulait régler le problème qui est survenu à l'utilisation de tous ces produits est un peu plus compliqué. Donc, aujourd'hui, nous interpellons la population sur le fait qu'il faut faire très attention avec tous ceux qui se targuent de pouvoir aider les femmes, surtout les femmes et les hommes, à avoir une apparence comme ils le souhaiteraient ou bien comme c'est diffusé sur les réseaux sociaux.
Tout à fait.
De faire très attention. Aujourd'hui, on est dans un monde où l'apparence est beaucoup plus importante que l'intérieur elle-même. Donc, nous exhortons la population à faire attention à qui elle fait confiance pour confier sa santé.
Mmh. Alors, docteur, quand on parle de cosmétologie, ça veut dire qu'il y a des cosmétologues. Il y en existe beaucoup au Togo?
Des cosmétologues connus, il n'y en a pas beaucoup, qui ont fait des études bien claires et qui maîtrisent la science, cette science liée à l'utilisation des produits destinés à la peau, au corps et aux cheveux. Il n'y en a pas beaucoup. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui passent sur les réseaux sociaux et qui disent qu'ils peuvent aider les femmes à avoir un beau teint, de beaux cheveux et tout. Donc, il faut qu'on fasse attention.
D'accord. Alors, pour finir, est-ce que vous pouvez nous parler alors des sections consacrées à l'extension des missions du pharmacien et à l'accès alors aux médicaments en situation de conflit?
En fait, depuis pratiquement 2 ou 3 ans, nous avons remarqué que dans notre sous-région, avec les pays tels que le Mali, le Niger et la Guinée, ils sont en conflit et ils ont des embargos concernant leur état. Et donc, c'est assez compliqué pour eux. Et ils sont souvent obligés d'avoir des tours pour pouvoir s'approvisionner en médicaments, surtout en ce qui concerne les pays de l'interland. Donc, le forum est l'occasion pour pouvoir réfléchir sur toutes ces problématiques que pose l'instabilité que nous avons constatée dans la sous-région.
Alors, docteur, pour finir cette émission, quel est l'appel que vous pouvez lancer ou l'invite que vous pouvez faire à ceux qui nous écoutent à participer à ce forum qui a démarré déjà depuis ce matin?
Ok. L'invitation que je peux faire pour tout, c'est que je demande à la population de s'approcher du pharmacien. Le pharmacien est à l'écoute. Il est disponible. C'est chez lui que vous pouvez arriver. On va vous écouter. On va vous donner des conseils sans détour. Quand vous arrivez et que vous avez un souci, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.
C'est très important. Mm-hmm. Et je rappelle que vous êtes pharmacienne d'officine vous-même. Et vous êtes docteur Mouzna Kpacha Esoranam. Merci d'être passé dans cette émission.
Merci beaucoup à vous.
Et vous êtes aussi membre alors du comité d'organisation du Forum pharmaceutique international 2024 qui se déroule actuellement à Lomé. Merci d'être passé,
merci
docteur.
Merci beaucoup. Mm. Merci à vous. Merci, cher auditeur.
sommes de retour dans cette émission Club de la Presse après avoir parlé alors de ce forum pharmaceutique international 2024 qui se déroule à Lomé. Et l'homme Tissogbé nous a rejoint. Et l'homme, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous.
J'espère que tu vas bien.
Oui, ça va.
D'accord. Ambrose, oui, vous évoquez le sujet à la une alors de votre journal. Je veux bien parler alors de ce sujet d'insécurité routière. On en parle toujours, bien sûr, mais vous êtes revenu sur un aspect spécifique alors de cette question d'insécurité routière aujourd'hui, où vous titrez à la une de votre journal « Insécurité routière, des tricycles, de véritables engins de la mort ». C'est bien ça ?
Tout à fait. Les tricycles, véritable engin de la mort, c'est, le titre est évocateur pour la toute simple raison que le constat est amer sur toutes les voies. Hein. Surtout qu'actuellement, ils se sont multipliés sur les voies. Ce ne sont pas ceux-là qui sont spécialisés dans les transports, particulièrement des hommes ou des femmes, pour aller à des lieux, comment vous dites, des lieux d'invitation et autres, mais ceux-là qui sont spécialisés dans le transport des bagages. Au-delà des bagages, ils transportent aussi des hommes et des animaux et tout. Ce qui fait qu'ils sont sur toutes les voies, y compris les chaussées. Et c'est le cas des chaussées qui préoccupe. Même si les accidents aussi se produisent sur les voies adjacentes, les voies à terre rouge, il y a forcément matière à discuter avec ces tricycles-là. Et ce pourquoi nous avons titré, nous avons relevé plusieurs accidents mortels dus à ces tricycles-là. Hier, quand j'ai publié le journal sur sur certains forums, c'est bizarre. Ce n'est pas étonnant que les gens réagissent ils sont très contents d'avoir relevé l'aspect particulier des tricycles. Surtout ceux-là qui ont des porte-bagages en fer. Les porte-bagages en fer, parce que c'est ça qui, des fois, galvanise les conducteurs de ces tricycles-là, qui, à un moment donné, vous les voyez peut-être en plein. C'est-à-dire que des gens qui ont consommé un psychotrope ou de la drogue ou quelque chose, leur comportement même laisse à désirer. Ils foncent sur vous, hein. C'est pas si l'on peut, les gens peuvent témoigner. Ils foncent sur vous parce qu'ils savent, parce qu'ils foncent sur vous, ils dirigent les allées de leur bagage, parce que c'est enfer. Ces tricycles-là, si vous avez la malchance qu'ils vous cognent, votre véhicule, vous le retrouverez intact, mais le véhicule, l'avant du véhicule, sera en lambeaux. Plusieurs cas se sont produits. Au niveau de l'Ave Maria, j'ai vu un monsieur, un véhicule neuf, qui a été complètement défiguré comme ça. Au niveau de Carrefour, pas au niveau d'Ave Maria. La dernière fois, cet essai a tué un de nos amis à Tilamonou. Il est mort sur le coup. Il était sur la moto. Il a voulu quitter la chaussée pour rentrer dans les voies adjacentes. Et va, sans phare. Parce que c'est la nuit, il a tamponné, il est mort sur le coup. Il y a une autre, ça fait, c'est en 2021, ça c'est moi-même qui ai assisté. Vous allez voir, la dame a acheté, elle est partie à midi, acheter du riz pour l'apporter à ses collègues au bureau. Le tricycle cogne, c'est tout le genou qui est parti. Le genou de la dame est parti. Et donc, nous l'avons titré pour attirer l'attention de l'autorité compétente. Parce que si ces gens-là n'ont pas de permis de conduire, ils vont faire énormément de dégâts sur la voie. Parce que quand vous voyez les chiffres des accidents de circulation ces trois dernières années, les chiffres évoluent toujours. On vous parlera de 2400 quelque chose morts pour 3000 et quelques accidents. Et donc, ceux qui sont en avant, adjoités en termes d'accidents, c'est les motocyclistes, y compris ceux-là qui sont les tricycles. Et donc, vous n'allez jamais voir un véhicule. C'est vrai qu'il y a aussi des véhicules du privé. Il y a des chauffards parmi eux, surtout les dimanches, quand ils ont pris la bière, et ils conduisent mal. Mais la propension est plus élevée au niveau des tricycles et des émigrants. Il faut filer partout. Et donc, nous estimons qu'il faut une règle spéciale. Il faut une règle spéciale pour ces messieurs-là. D'abord, on commence par le permis de conduire. S'ils ne l'ont pas, ils ne seront pas autorisés à conduire ces tricycles-là. De deux, il faut, je me rappelle, c'est et Jacques Jacouti qui le disait dans une au cours d'une émission il y a quelques mois, qu'il faut les caser dans les quartiers périphériques et sur les voies rouges là, les voies non bitumées. On vous dira que bon, c'est des gens qui transportent, oh, qu'est-ce qu'ils vont manger, ils vont aller au marché, ils vont transporter. Les taxis sont là pour transporter du marché vers les voies autorisées, c'est-à-dire les chaussées, pour aller là où ils veulent aller pour les transports, les propriétaires de marchandises. Et donc nous disons que c'est une bonne chose, mais ça cause trop d'accidents.
D'accord.
Pour l'autre cas, ceux-là qui transportent des gens civilisés, bon, permettez-moi les termes, mais ceux qui les jaunes là, qui sont électriques, mais qui transportent plus ceux qui sont vont à des invitations, ceux qui vont à des lieux précis, je crois que leur cas n'est pas aussi alarmant, mais il va falloir que eux aussi ils prennent le permis. Ils passent pas à la voie du permis. C'est là que je lance un appel au ministère des Transports, à la direction des transports routiers. Je sais qu'on se fait déjà là-bas d'amener les gens là à avoir le permis et de respecter scrupuleusement le code de la route.
C'est très important.
Et souvent aussi, ils violent les feux rouges.
D'accord. Merci beaucoup, Ambroise. Oui, Magloire, quand on écoute Ambroise, alors sur cette question, c'est quelque chose que nous constatons dans la circulation. On voit même d'ailleurs que ces tricycles qui n'ont pas même d'ailleurs d'endroit fixe et ils se faufilent entre même d'ailleurs les véhicules et tout cela, ça crée des accidents. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il est très important quand même qu'on réglemente tout.
Bien évidemment, il est grand temps qu'on réglemente tout. Moi déjà, je crois que depuis 2015, j'ai été négativement marqué par ces tricycles. Vous vous rappelez qu'il y a un 25 décembre 2015, toute une famille a péri parce que le monsieur avait embarqué ses 5 ou 6 enfants dans un tricycle et ça s'est renversé dans le ravin du rond-point bord. Et en ce moment-là, paix à son âme, mon père était victime d'un accident, donc il était hospitalisé au CHU Tocoin. On était là quand on les ramenait. Ils venaient d'avoir, afin de faire l'accident fraîchement. Et les catombes, on avait vécu ça. C'est devant nous que les petits mouraient un à un. Jusqu'à 6 enfants, y compris leur papa, il n'y a que le Benjamin qui était avec sa maman au marché le jour de Noël, qui est resté en vie. Elle voit la dame le jour-là, qui était désemparée et tout. Du coup, ça m'a marqué négativement. Alors, aujourd'hui, je crois que le vrai problème aussi se pose au niveau de la typologie, pas de l'engin qui est le tricycle. Parce que c'est un engin qui, par derrière, a la forme d'un véhicule, et devant, a la forme d'une moto. Est-ce qu'il y a des véritablement des... un peu complexe l'usage de cet engin? Parce que, vous l'a dit tantôt, quand vous voyez ces conducteurs-là, ils se faufilent, ben, à un moment donné, ils ont carrément que, il y a un caractère un peu ambivalent, n'est-ce pas, de l'engin. Ça, c'est moto par devant, et ils croient qu'ils pouvaient se faufiler partout, alors que derrière, c'est plus large, c'est un véhicule, et ça cogne des gens, ça ramasse des gens, ça crée des accidents. Mais effectivement, même les chiffres officiels, quand vous consultez un peu les chiffres officiels que rend public périodiquement le ministère en charge de la protection civile et de la sécurité, ben, on vous dit que parmi les engins impliqués dans les accidents, il y a en bonne place les tricycles. Et donc, il y a tellement de signaux qui prouvent qu'il y a danger, il y a péril à la demeure. Mais jusque-là, on se pose la question de savoir, mais quel maillon du système n'agit pas pour qu'on en soit toujours là à compter des morts, à compter des blessés? Et je crois qu'il est grand temps. Il est grand temps qu'on agisse parce que ça, nous l'avons dit un peu dans notre article à la une aujourd'hui, mais c'est l'une des résultantes même de la pauvreté, du sous-emploi ou du chômage carrément qui devient ambiant en Afrique. Parce que ces engins ne sont pas fabriqués au Togo ni en Afrique. C'est des fabrications très souvent chinoise ou indienne. Mais demandons-nous, posons-nous la question de savoir, mais pourquoi ces engins ne sont pas vraiment destinés aux pays dans lesquels c'est fabriqué, mais beaucoup plus en Afrique? Parce que on pense que c'est pratique, on pense que c'est plus on va dire c'est moins coûteux, parce que quelqu'un qui veut faire le déménagement ou qui veut transporter ses bagages, le premier réflexe c'est de se replier sur ces engins tricycles parce que c'est plus pratique et moins coûteux. Mais en même temps, on oublie les dégâts, le danger que ça constitue, parce que non seulement les conducteurs, beaucoup d'entre eux ne disposent pas de permis de conduire, mais aussi, comme je l'évoquais, le caractère un peu dualiste de cet engin contribue beaucoup plus à la multiplication des accidents. Donc, c'est tout un ensemble de faits qui doit interpeller le ministère, tous les services d'État impliqués dans la sécurité routière à agir pour éviter au maximum de compter toujours les dégâts
tout à fait,
et les morts.
Tous les services alors doivent être interpellés, tel que vous l'avez dit. Alors, c'est vrai que elle a dit, c'est quelque chose qui est coûteux et c'est pratique, mais finalement ça crée des dangers.
Oui, bon, je crois que le problème des tricycles est connu de tous. Vous avez un tricycle qui transporte un conteneur. Ça existe aussi dans la capitale togolaise. Et je n'invente rien. Et les photos sont là, on en voit tout le temps dans la rue. Vous avez un tricycle qui transporte quoi? Tout un salon complet. Oui. Et fauteuils, canapés avec, je ne sais pas, plusieurs chaises, si ça existe. Mais un tricycle transporte un peu comme du bétail, excusez-moi, mais ça existe. Vous allez voir à l'arrière d'un tricycle 20-25 personnes assises. Mais attendez, un tricycle, ce n'est pas pour transporter des hommes. On peut dire oui, bon, peut-être dans la conception de ce type de véhicule, le concepteur peut-être dit pour aider les gens qui veulent porter, pour transporter de petits trucs, de petites marchandises, pour pouvoir limiter un peu la casse au lieu de prendre un taxi bagage pour transporter. Le tricycle est adapté pour le transport de petits bagages des bagages qui ne sont pas quand même lourds ou bien qui ne sont pas nombreux. Mais on se rend compte que les tricycles constituent aujourd'hui ce qu'on appelle danger public. Parce que vous êtes dans la rue, c'est eux qui circulent mal. Ils conduisent comme des chauffards, c'est-à-dire tantôt il est à gauche, tantôt il est à droite. Et vous allez le voir faire du zigzag sur la route. Et même dans les virages, c'est eux qui ne font rien doucement. Et vous savez, c'est un type de véhicule qui également fait marche arrière. Donc vous êtes là et puis quelqu'un fonce derrière sur vous. C'est tellement alarmant que il faudrait que la division de la sécurité routière regarde ça de plus près. Les tricycles, c'est vrai qu'on en arrête, hein. On arrête sur des voies, des tricycles, des conducteurs tricycles qui transportent des choses vraiment volumineuses, qui sont à des hauteurs pas possibles. Mais je crois qu'il faut commencer à trouver une solution sur la durée. Parce qu'on ne va pas continuer aussi à laisser ces personnes faire n'importe quoi sur nos routes. On n'a pas des routes beaucoup plus larges. On a des routes qui sont larges, il y en a qui sont beaucoup plus étroites. Mais comme Ambroise l'a dit tout à l'heure, on aurait préféré que ça reste en périphérie. Périphérie, milieu rural, mais en pleine capitale, sur des routes qui sont des routes prioritaires ou des routes qui sont un peu plus larges, qui sont des nationales. Je crois quand même qu'on doit trouver une solution pour que ce type de véhicule ne circule pas, parce que ça non seulement ça constitue une source de danger public. Les accidents surviennent à tout moment à cause des tricycles. Aujourd'hui, ce n'est plus les motos seules. Les tricycles aujourd'hui qui contribuent également aussi qui sont facteurs ou sources d'accidents. Donc, il faut que l'autorité trouve une solution pour que les conducteurs de tricycles soient beaucoup plus disciplinés.
D'accord, il faut que l'autorité trouve vraiment une solution.
Oui, on reste rapidement. Il y a même un décret. Hein. Il y a un qui est censé réguler tout ça. Moi, j'attends juste les tests d'application de ce décret pour que cela soit mis en œuvre. Parce que quand vous lisez le décret, quand j'ai lu le décret, j'ai été éberlué, j'étais très content, parce que ce décret-là, si on doit effectivement le mettre en œuvre, beaucoup de problèmes de circulation seront réglés. Ça, je vous le garantis.
Mais finalement, c'est quoi le souci pour que, du moins, ce décret ne soit pas mis en œuvre?
Non, c'est tellement qu'il faut d'abord des garde-fous. Avant de mettre en œuvre un décret, il faut une sensibilisation. Tout comme le port du casque, là. Au port du casque, cela avait été fait par le ministère de la Sécurité. Et que les deux ministères, transport routier et ferroviaire et sécurité, puissent enclencher. Nous, notre souhait, c'est que ce décret soit mis en œuvre. J'ai encore le décret devant moi. Mais pour le moment, il faut qu'il y ait une sensibilisation à outrance pour que ça rentre dans les oreilles des usagers de la route. Concernant surtout les tricycles et les émigrants. Parce que quand vous lisez le décret, vous comprendrez que n'importe qui ne deviendra plus conducteur de taxi moto, quoi. Que ce soit tricycle ou conducteur. Et la procédure même d'obtention du permis et d'accéder même à certaines zones, tout cela est prévu dans le décret. Et le décret est tellement clair que si jamais on mettait en œuvre ça, il y aura moins d'accidents.
D'accord.
Il y aura moins. Parce que 69%, plus 70% des accidents sont causés par les motos.
Tout à fait.
et les tricycles.
Tout à fait. Même le rapport semestriel alors du ministère de la Sécurité nous évoque souvent cela. Alors, Magloire, on sait que d'habitude sur ces tricycles et aussi taxi-moto, c'est souvent des jeunes qui sont là. C'est parce qu'ils ne trouvent pas à faire. Donc finalement, ils trouvent en quête une porte de sortie à travers même d'ailleurs ce boulot. Vous vous intéressez aux jeunes ou à la jeunesse alors ce matin et vous parlez de la promotion de la jeunesse et vous dites alors discours et réalité.
Bien entendu, je l'évoquais tantôt, vous savez, ces jeunes-là qui, sans permis de conduire,
Conduire.
Oui. Donc, je suis dans les normes.
Tout à fait.
Alors, beaucoup de ces jeunes-là, lorsqu'ils se retrouvent dans ces situations, c'est beaucoup plus pour échapper un peu au chômage et au sous-emploi qui se vit très souvent chez nous. Je le disais tantôt. Et donc, aujourd'hui, nous avons estimé qu'il était important quand même de reposer le débat. Parce que vous savez, depuis 2009, où l'autorité, ou du moins l'exécutif togolais a jugé bon, n'est-ce pas, de créer un ministère spécialement dédié à la jeunesse, on a vu passer plusieurs projets spécialisés, n'est-ce pas, dans la formation des jeunes, la création de l'emploi, les start-up, tout ce qui va avec l'épanouissement de la jeunesse. On a tellement été créatifs là-dessus, plusieurs projets. Ça fait quoi? De 2009 à 2024 aujourd'hui, quoi? Ça fait 15 ans. Mais aujourd'hui, lorsque on nous demande de faire une petite pause et faire une évaluation de tout ce qui a été fait par rapport, n'est-ce pas, aux milliards engloutis dans ces différents projets, mais le résultat, ben, il n'est pas fameux. Il n'est pas fameux. Vous allez voir aujourd'hui, lorsqu'on prend différents rapports, même en 2021, par exemple, il y a un rapport sous-régional qui évalue la situation de la jeunesse au Togo et le chômage était évalué jusqu'à 22% et plus. Mais on se dit, mais comment est-ce qu'on peut avoir un tel nombre, toute une panoplie de projets destinés aux jeunes et avec des moyens colossaux que l'État a mis, mais aujourd'hui on en soit encore là à parler du chômage, du emploi, et tel que ça y est aujourd'hui, jusqu'à au point où c'est tellement inquiétant, vous allez voir, les jeunes, beaucoup plus, ils sortent du pays. Et c'est-à-dire que normalement, on ne peut se sentir à l'aise que chez soi, mais la jeunesse togolaise aujourd'hui, parce que peut-être ne se sentant ou n'ayant pas un horizon assez rose chez lui, ben, il décide de se lancer dans l'aventure. Mais nous, on s'est dit, mais en tant que journaliste, c'est aussi notre devoir, parce que nous sommes des éveilleurs de conscience. Qu'est-ce qui ne va? Est-ce qu'on va rester comme ça à égrener les projets, les programmes, et investir des millions, des milliards dedans, et chaque année, on voit nos jeunes qui le pays pour aller se chercher, peu importe les prix à payer ailleurs. Nous nous disons non, il faut poser le débat. Mais aujourd'hui, ben, la question qu'il faut se poser, c'est que, ben, quel maillon de la chaîne a été défendu jusque-là? Qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement? Quel a été le suivi évaluation de tout projet? Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui a été fait et qui reste à améliorer? C'est autant de questions qu'on se pose aujourd'hui, et nous avons estimé qu'il faut relancer le débat carrément. Ce n'est pas, vous savez, parce que généralement, quand on pose ce genre de débat, il y a certains qui pensent que c'est parce qu'on n'aime pas la tête de quelqu'un qu'on le dit, mais la réalité, c'est que la jeunesse togolaise aujourd'hui souffre. Vous allez voir, il y a quelques mois, quelques années, il y a une catégorie de jeunes entrepreneurs qu'on a vite fait de brandir en champion. Mais aujourd'hui, ils sont où? Vous les entendez encore? Beaucoup de ces jeunes sont devenus des coachs sur les réseaux sociaux. Ça voudra dire qu'il y a un malaise, il y a un mal-être. Et il faut avoir le courage de pointer du doigt la réalité pour trouver des vraies solutions. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons la case et carte blanche. On a tout ce qu'il faut, les données, les statistiques, pour réévaluer tous ces projets et réorienter les, et s'il le faut, dans l'optique de contenir chez nous ces jeunes qui sont, pour la plupart des cas, des diplômés, mais qui ne trouve pas de débouchés ici. Et il y a même un rapport qui disait il y a quelques années que la majorité des, enfin, le plus grand nombre de médecins togolais se retrouvent hors des frontières. Mmh. Mais quoi ça? Mais c'est des questions réelles qu'il faut se poser.
Tout à fait, c'est des questions réelles qu'il faut se poser. Et là, oui, quand on suit un tout petit peu la réalité, le discours, vous avez aussi l'impression, pour ce qui concerne surtout la promotion de la jeunesse dans notre pays, qu'il y a en quelque sorte un vide qui ne dit pas son nom.
Oh, vous savez, pas seulement qu'au Togo, la question de la jeunesse est transversale à l'Afrique. Vous savez que l'Afrique est le continent qui recense beaucoup plus de jeunes. Vous avez une population relativement jeune, donc ça pose un défi permanent avec des gens qui arrivent sur le marché de l'emploi avec des statistiques impressionnantes. Et donc la question de l'emploi, la question du chômage, la question de la jeunesse, ce sont des préoccupations majeures dans tous les pays, mais spécialement au Togo. Quand vous prenez aujourd'hui la question de la jeunesse, comme Magloire l'a dit, il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui tentent de partir. Et il y a des jeunes qui essayent de s'installer dans d'autres pays pour se définir, parce que justement les gens sont toujours à la recherche du mieux-être, du mieux vivre, et ça fait que aujourd'hui on se pose la question véritablement sur les dispositions prises pour pouvoir mettre cette jeunesse là justement à l'abri de beaucoup de choses. Quand par exemple on nous a dit qu'il faut réserver un certain nombre de marchés aux jeunes entrepreneurs et aux femmes, et je pense que c'est 30%, je me rappelle bien. Et aujourd'hui, si on fait le quota, on fait les statistiques, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en parlent pas, mais est-ce que véritablement c'est respecté dans la passation des marchés? Est-ce que sur le marché de l'emploi, on arrive justement en tant que jeune diplômé à trouver un premier boulot? C'est vrai que la NVT donne la chance, à travers un programme de volontariat, de pouvoir permettre à ces jeunes de disposer d'une expérience professionnelle dans une entreprise avant de postuler un emploi en bonne et due forme. Mais il y a toujours cette question-là. Qu'est-ce que ces jeunes font aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on leur donne en matière justement de professionnalisation, en matière de promotion de l'emploi? Parce que la question transversale au niveau de la jeunesse, c'est l'emploi. Vous avez au niveau de l'université, combien, 70 ou 75 000 étudiants qui y sont et qui peut-être dans les trois quarts arrivent sur le marché de l'emploi, et ils sont là avec leur licence, leur master, leur doctorat à la fin du cycle et à chercher du boulot. C'est vrai qu'on n'a pas aussi beaucoup d'entreprises qui vont recruter cette main-d'œuvre, et toutes les entreprises ne peuvent malheureusement pas recruter cette main-d'œuvre. C'est pour ça qu'il faut encourager d'une part l'entrepreneuriat, mais quand vous prenez l'entrepreneuriat aujourd'hui au Togo avec toutes ces réalités, ces difficultés, vous avez quoi, les TPME, les très petites et moyennes entreprises qui emploient 3, 4, 5 personnes, c'est-à-dire avec un taux d'emploi qui porte sur 3, 5 employés, et vous avez les petites et moyennes entreprises, les PME, PMI, dont la taille est beaucoup plus grande que les TPME, vous avez les grandes entreprises. Quand vous rentrez dans ça, et ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de mener à bien un projet d'entrepreneuriat. Ça aussi, c'est délicat, parce qu'il faut l'équipe. Vous avez beau avoir l'ambition, la vision, mais si vous n'avez pas l'équipe qu'il faut pour conduire l'entreprise ou pour conduire le projet, vous allez échouer. Parce que vous ne pouvez pas seul conduire un projet d'entrepreneuriat. Il faut que vous ayez des ressources efficaces. La comptabilité, la direction financière. Et dans ça, comme je l'ai dit tantôt, vous ne pouvez pas aussi dire que ce n'est pas la capacité à ne pas voler l'entreprise ou à ne pas puiser dans le crédit octroyé qui constitue que vous êtes bon ou honnête. C'est la capacité à pouvoir négocier, à discuter d'un projet, à pouvoir faire aboutir un accord ou un contrat qui constitue l'une des qualités justement des ressources humaines. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. Il faudrait que l'État offre davantage de débouchés, même à travers le sport. Aujourd'hui, même au niveau du sport, on voit que là, il y a beaucoup de jeunes qui s'adonnent au sport, mais on a toujours du mal à professionnaliser le sport. Ça ne vient pas encore. Le football s'attitube un peu sur le chantier de la professionnalisation. Et les autres sports, n'en parlons pas, parce qu'on est encore là à l'étape des infrastructures, on n'en trouve pas. Et c'est compliqué dans ces conditions. Et il faudrait véritablement qu'on puisse définir une politique générale en faveur de la jeunesse. C'est très important. C'est très, très important.
C'est très important.
Et il faudrait qu'on puisse véritablement muter, parce qu'avec les nouvelles technologies aujourd'hui, il faudrait que... Parce que c'est une niche aussi pour la jeunesse. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes qui sont sur les TIC. Vous avez beaucoup de jeunes qui adorent l'informatique, qui adorent justement l'IA. Il y a des jeunes qui sont des cracks en intelligence artificielle et en métier du numérique, mais on ne les exploite pas encore suffisamment. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une école du numérique? Est-ce qu'aujourd'hui, on a, je ne sais pas, un centre du numérique où quand les jeunes sortent directement de ce centre-là, ils disent, on dit que waouh. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, les entreprises vont muter. Et on va parler beaucoup plus de transfert d'argent, on va parler beaucoup plus des métiers du numérique, on va parler de la fabrication de robots, on va parler de quoi de, parce que le travail va passer du simple au numérique. Donc, il faudrait que davantage de jeunes soient outillés. Il faudrait qu'il y ait un taux d'absorption de jeunes en métier, par rapport au métier du numérique. Et je crois que c'est quelque chose qui ne doit pas être défini comme ça. Il faut progressivement le faire pour que justement on puisse trouver une solution à cette jeunesse.
Et il faut définir toute une politique pour ça. Voilà. Alors, pour ce qui concerne le quota réservé alors aux jeunes, tel que vous le disiez tout de suite, le chiffre c'est 25%.
25%,
justement,
voilà.
25% de marché, oui. Un public qui sont souvent alors réservés aux jeunes et aux femmes entrepreneurs.
Voilà.
Alors, oui, Ambrage, oui, 25% de marché réservé alors aux femmes et jeunes entrepreneurs, mais finalement, tel que l'a dit tout de suite Magloa, à un moment donné, on a vu quand même ces entrepreneurs là qu'on a brandi et on leur a donné également alors de qui étaient même d'ailleurs des héros, mais finalement on ne les voit plus. Est-ce que ça veut dire qu'il est compliqué alors d'entreprendre au Togo?
D'abord, nous avons une habitude ici chez nous, on aime nous présenter à l'extérieur comme nous sommes les meilleurs, les premiers à innover. Chez nous, il y a de bonnes choses, mais à l'intérieur, les réalités sont tout autres. C'est le cas de cette histoire de 25% dont vous parlez, qu'on a décidé d'octroyer aux jeunes et aux femmes. Moi, j'avais demandé un jour qu'on me fasse la liste nominative des jeunes et femmes qui ont bénéficié de ces créations d'entreprises et qui ont bénéficié de telle ou telle chose dans le sillage-là, pour que je puisse évaluer, vérifier, qu'on donne les gens leur nom et leur numéro de téléphone. Que l'on puisse vérifier réellement. Madame, est-ce que vous avez pu avoir quelque chose comme ça au niveau du gouvernement? Monsieur, est-ce que vous avez pu avoir... Pour vérifier si réellement...
Quoi, vous doutez qu'il n'y a pas alors des gens qui bénéficient vraiment de ces soit financement...
Le doute m'a même donné, parce que quand vous parlez du doute, le doute m'a même né là-bas. Quand je dis que le doute est là-bas, demande-toi pourquoi les gens quittent en nombre le territoire. J'ai écrit un article, je disais que vous n'avez pas besoin de quitter le territoire. Vous êtes obligé de rester. C'est vrai que c'est un article politique. Vous êtes obligé de rester pour continuer le combat de la justice, le combat de la lutte contre la faim, le combat de la création d'emplois en masse dans le pays. Quand les gens, certains Togolais vont au Nigeria, c'est pas pour rien. Quand vous allez au Nigeria, il y a la consommation. Quand vous avez 25 millions de Nigériens, ne serait-ce qui habitent à Lagos, la capitale économique, comprenez que ces gens-là sont là. Je ne sais pas combien de personnes quittent pour Londres ou pour les États-Unis, mais c'est qu'il y a du monde là parce que quand vous êtes dans l'agroalimentaire, dans la consommation, il y a du business. On vous dira qu'il y a du business. Les gens là-bas n'aimeraient jamais quitter le Nigeria, Lagos. Parce que il y a tellement de monde, les gens doivent manger. Les gens doivent se vêtir. Les gens doivent se chausser. Tout ça là, il faut de la main-d'œuvre. Il faut des artisans. Il y en a. Pourquoi pas ici? Le peu qu'il y a, dont on est amené, on est obligé de créer de la richesse pour les nourrir, ils sont en train de quitter le territoire. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui les rassure. Il n'y a rien qui garantisse que demain, leurs jours seront heureux. Les gens cherchent un Eldorado. Pas pour le luxe, mais juste pour survivre. Les Togolais quittent pour survivre. Certains passent par des voies bidons. Vous allez voir des gens qui meurent dans la mer, ceux qui prennent par la Libye, ceux qui prennent par le Mali, le Niger, qui meurent dans le désert, dont on ne parle pas, ceux qui meurent dans la mer, plus de centaines. Je vous dis, au moins une trentaine par jour. Parce que c'est des choses clandestines qui se font. C'est-à-dire à l'insu de tous. Parce qu'on ne veut pas qu'on voit. On vous transporte sur le fleuve là, vous rentrez sur le fleuve dans la mer, vous rentrez dans la mer, et ceux-là qui sont des passeurs, ils vous laissent seuls. Ils ne veulent pas être attrapés par les gardes-côtes, des côtes italiennes et autres. Donc, c'est ça, heureusement que le Togolais, vous savez, le Togo a un peuple spécial. Je dis, on n'est pas comme les autres.
Hein. En quoi nous sommes spéciaux?
Oui, je vais t'expliquer. On n'est pas comme les autres, que les autres nationalités qui sont dans le m'excuse. Mais le Togolais, d'abord, il est pacifique. Il a été éduqué autrement. Papa, je ne parle pas de la dictature. Nos parents nous ont donné une éducation de non-violence, de non-représailles, une éducation du peu qui se suffit. Ça, on peut le critiquer. Parce qu'on veut dire qu'on n'a pas tellement d'ambition. Peu seulement ont des ambitions.
Mais au même moment, est-ce que ça ne crée pas du tort quand même aux Togolais que nous sommes?
C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Les Togolais sont allés former les Gabonais. Les Togolais sont allés en Centrafrique. C'est eux qui sont les meilleurs. Dans les années 70, 60, 80, c'est les Togolais qui ont formé les Équato-Guinéens.
En Côte d'Ivoire.
Les trois pays pilotes, c'est la Côte d'Ivoire, le Gabon et la Centrafrique. Ils sont même allés au Congo. Il y a des noms bizarres là-bas, les Sassou, tout ça là. Vous comprenez que le Togolais est passé par là. Même au Cameroun. Pour dire que tout a été noyé par la dictature. Tout a été noyé par la dictature. On ne va pas tout peindre en blanc, en noir. Au temps des Adéma, c'est Adéma qui a fait que nous vivons cette situation aujourd'hui. Mais lui, en son temps, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver. Regardez le bord de maïs qui est à 1000 francs, le gari qui est à 1200 francs. Au temps des Adéma, c'est pas possible. Même si on me dit que c'est un truc général, et Adéma ne permettra jamais ça. Mais aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent, ils s'en foutent.
Ah, d'accord.
Il n'y a pas de régulation sur le marché. Et les jeunes, l'entrepreneuriat dont on parle, on n'est pas habitué parce que nous sommes dans un système francophone et un système purement français qui vous apprend à vous habiller en veste et à rester au bureau.
D'accord.
Et donc, quand c'est comme ça, pas comme au Ghana, les gens vont s'en sortir comment? Ils sont obligés d'aller au Ghana, au Nigeria.
D'accord.
Au Mali, plein de Togolais sont au Mali.
Ok.
Et au Niger.
Voilà. Magoula, nous allons nous intéresser à un autre sujet, c'est ce sujet politique. On sait que déjà cette contestation contre la nouvelle constitution ou la nouvelle république est en marche, où on retrouve quand même des organisations de la société civile qui organisent même des manifestations. Le dimanche dernier, c'était Novation Internationale et Togo Debout qui était à Kassimé, tout près de nous ici. Hier, c'est le Front ne touche pas à ma constitution qui a organisé une conférence de presse à Brod Arome, ou une conférence de débat, j'allais dire, à Brod Arome pour justement cette contestation contre la nouvelle constitution. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas en voyant les choses, hein, bien sûr, à l'analyse, à l'ordre des choses, est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance?
Ben, ça dépend. Ça dépend de l'angle dans lequel on voit les choses passer, vous savez. C'est des hommes politiques, ils ne vivent que de ça. Et pour eux, c'est de la matière. Vous ne pouvez pas le leur interdire. Et c'est pour ça, moi personnellement, quand je vois depuis 2020, le paysage politique au Togo, c'est morose. Mais il n'y a plus rien, il n'y a plus cette vitalité qu'il faut pour expérimenter même notre propre démocratie. Mais moi, ça m'attriste. Ça m'attriste que même si vous voulez manifester au Togo aujourd'hui, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de boutique. Il n'y a pas de commissariat, il n'y a pas de banque sur le trajet. Mais où est-ce que vous allez voir ça? Ça voudra dire quelque part que manifestement, il y a des gens qui ont travaillé à ce que nous en soyons là. Et quand on est épris un peu de la liberté d'expression, liberté de manifestation et démocrate, il y a des choses qu'on ne doit pas vraiment admettre. Et ce n'est pas moi qui le dis. Même le Conseil, n'est-ce pas, des droits de l'homme, le comité des droits de l'homme des Nations Unies à maintes fois est revenu là-dessus lorsque le Togo s'est présenté à l'examen périodique universel. On leur a dit
à Genève,
on leur a dit que la loi Bojona qui a été, on va dire, tripatouillée pour être ce que ça est aujourd'hui, ce n'est pas bien. Et ce n'est pas moi qui le dis. Et c'est pour ça, quand moi je dis, je vois dans ce contexte où tout est verrouillé, et qu'à un moment donné, même des simples conférences de presse, on en interdit aux acteurs politiques. Je dis, mais c'est dans notre pays, le Togo, que tout ça se passe. Mais quand on est un peu jeune et qu'on voit ce qui se fait ailleurs et que chez nous, on le fait autrement, mais ça chagrine. Mais heureusement, il y a de ces bonnes volontés, entre griffes, issues, n'est-ce pas, de la société civile ou de l'opposition classique qui ont décidé de maintenir quand même la flamme. de la vie politique active dans le pays, c'est de bonne guerre. Moi, en tant que journaliste, j'ai envie qu'on m'invite aujourd'hui pour dire, ben, l'ANC ou, je ne sais pas, la CDPA ou UNIR à manifestation, à marche ou à conférence de presse que j'aille couvrir. C'est, ça me donne de la matière. Mais quand tout est verrouillé, je dis, ça pose problème. Aujourd'hui, il y a certains qui essaient de maintenir la flamme. Moi, j'estime que c'est de bonne guerre. Mais quand il y a des courants de pensée qui pensent aussi que ben, c'est du fiasco, c'est d'une guerre perdue d'avant, mais j'ai envie de demander, mais en quoi ça gêne? Mais si c'est du fiasco, mais à un moment donné, ils seront épuisés et puis ils vont rester à la maison. Donc, laissons la liberté s'exprimer, laissons la démocratie s'exprimer, et c'est ce que le Togo a besoin de... Enfin, c'est de ça que le Togo a besoin aujourd'hui.
D'accord. Oui. Alors, c'est vrai que on a laissé la liberté s'exprimer avec les organisations de la société civile qui ont organisé même cet événement, ce meeting alors le dimanche dernier, et aussi avec la conférence débat hein, qui a eu lieu hier. Mais il y a voilà, les vainqueurs qui titrent « Les organisateurs peinent à mobiliser ». Alors, et finalement, ça veut dire que au niveau même d'ailleurs de la mobilisation, il y a un problème.
Oh, bon, vous savez, est-ce que le débat porte sur la mobilisation ou sur le fond de ce qu'ils sont en train de dire? Je crois que les seuls leaders de partis politiques et d'organisations se disent que oui, ils ne sont pas d'accord par rapport à un fait. Oui, mais qu'on leur laisse la liberté de manifester, de s'exprimer, oui, c'est un fait. Aujourd'hui, ils sont en droit de manifester, de se prononcer. Ça, c'est une évidence. Bon, maintenant, comme je l'ai dit, le débat ne porte pas sur le fait qu'ils aient mobilisé une ou deux personnes. Le débat porte sur l'idée qu'ils sont en train de défendre. Est-ce que,
le message véhiculé.
Est-ce que le message, est-ce que ce qu'ils sont en train de dire, est-ce que c'est pertinent, oui ou non? Parce que derrière quand même une mobilisation, tout le monde peut mobiliser. Hein, ça dépend de la stratégie, de la manière dans laquelle vous voulez mobiliser. Si Canal FM a besoin tout de suite de 100 à 200 personnes devant son studio ici pour pouvoir dire un message, Canal FM sait comment elle va s'y prendre. C'est quand même ça, parce que vous n'allez pas rester dans la rue et commencer à crier que oui, on a un message pour vous. Mais si vous voulez justement la cible, vous la définissez, vous allez voir des gens qui vont arriver tout de suite autour de 500 personnes. Et donc, le message n'est pas beaucoup plus sur la foule. Le message, c'est le contenu de ce que vous allez dire. Est-ce que le contenu est pertinent? Est-ce que le débat que vous faites est un débat pertinent? Parce que quand demain, le débat va franchir nos frontières, mais quelqu'un qui sera à l'est, à l'ouest ou au nord va se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire d'abord? Mais est-ce que ce qu'ils sont en train de dire, oui, c'est un message qui quand même vaut la peine de pouvoir enclencher une manifestation? Je dis, oui, on en parle. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, les Togolais sont fatigués de la politique. Un peu, vous comprenez? Le Togolais aujourd'hui, il a besoin de quoi? Il veut vivre de façon correcte. Il veut, quand il va à l'hôpital, avoir des meilleurs, enfin, des soins de qualité. Il veut que, justement, ses enfants puissent trouver quoi faire après l'école. Mais c'est les préoccupations quotidiennes du Togolais aujourd'hui. Excusez-moi, mais ce n'est pas de pouvoir, justement, se prononcer sur l'actualité politique. Quand vous regardez aujourd'hui, quand vous analysez bien, c'est vrai que la politique est présente. Mais il y a très peu de personnes encore qui s'y intéressent. Il y en a qui, véritablement, se prononcent sur... Mais vous regardez même au niveau des mairies, mais tout ce que les maires font aujourd'hui, ça n'intéresse personne. Mais quand les maires, aujourd'hui, ils sont là, quand les gens appellent, quand les gens vous parlent, c'est que dans notre commune, il y a trop de nuisances sonores. Dans notre commune, il y a une pollution de l'environnement. Dans notre commune, il y a inondation. Dans notre commune, on ne dit pas que le maire est de tel bord politique ou pas. On ne veut même pas savoir. Mais les gens vous parlent de leurs problèmes réels. Il faut les résoudre. Que ce soit un problème de social, les gens vous en parlent quand même. Et donc, on doit quand même s'inscrire dans une logique de développement, de construction de la nation, de recherche de solutions aux problèmes permanents. Et non, justement, de pouvoir tout le temps parler politique, parce qu'aujourd'hui, on a une nation à construire.
Tout à fait.
On a un territoire à construire.
On a une nation à construire. Ambroise, oui, vous titrez sur le sujet, les OSC et l'opposition contre la nouvelle constitution, une mobilisation en progression. C'est bien ça?
Oui, c'est le constat que nous avons fait. Que par rapport au passé où on interdisait systématiquement le regroupement des forces politiques, que ce soit au cours d'une réunion, avant d'aller jusqu'à un meeting politique, on a vu des gaz ou des interdictions formelles quelque part tout récemment, parce que j'adhère à ce que l'homme a dit, pratiquement sur l'intérêt de la rencontre. Est-ce que c'est la mobilisation qu'il faut tenir en haleine ou c'est plutôt le message qu'il faut passer, même si c'est deux personnes qui sont arrivées. Ce qui compte, c'est le message. Maintenant, ce que moi j'ai voulu dire par rapport à cette histoire de mobilisation, c'est vrai que même en France, partout, on évalue toujours. Il y a un baromètre, on dit, la police dit qu'il y a 250 000 personnes qui sont là, les manifestants disent qu'il y a 500 000. Tout ça là, c'est dans tout. Mais nos autorités, non, moi je vais prier de quitter ce schéma-là parce que on n'en a pas besoin chez nous ici. Mais ceux qui disent fiasco là, je doute même que certains y sont allés. Hein. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que les gens ont déjà trouvé leur constitution et leur 5e République. C'est à cause de tout ça, à cause de tout ça là, qu'ils ne veulent pas même deux personnes qui se réunissent. Avant c'était le Covid. Ici c'est la constitution et la 5e République. Ils sont prêts même à tout raser pour que leur constitution et la 5e République passent. D'accord. Maintenant 5e République et comment on l'appelle, régime 5e République et constitution sont passés. Bon, laissez-les maintenant aller faire leur meeting. Mais les gens qui sont là, ils contestent justement cette constitution-là qui a été fabriquée de toutes pièces sans l'assentiment du peuple. Et donc, moi, j'ai vu des gens qui sont arrivés à ce meeting à Kassimé. Ils n'ont qu'à essayer d'éviter de terroriser les Togolais. Ils verront les gens dans la rue. Ils verront les gens à la prochaine fois à des meetings. Parce que ce n'est pas ça qui en manque. Elle m'a dit quelque chose de très important. Et les élections passées l'ont démontré. Les Togolais sont fatigués de la chose politique. Ce n'est pas à cause des opposants, encore moins de la société civile. C'est à cause de ceux qui nous dirigent. Parce que les élections n'apportent rien. Les gens ont constaté que finalement les élections n'apportent rien. Et donc, les meetings, est-ce que les meetings vont apporter quelque chose? Mais je tiens à dire aux Togolais que les meetings peuvent apporter un rapport de force. Si vous mobilisez, vous mobilisez, vous mobilisez, et que ça s'est passé le 12 juin 2012, ici à Lomé, à Décon ici, ça peut créer un rapport de force.
Mais on se souvient,
les gens qui sont en face peuvent changer d'avis. Donc c'est en cela, les Togolais sont obligés de se mobiliser.
D'accord. Merci Ambroise, merci cher confrère. Nous allons en arrêter là pour ce qui concerne alors le débat et donner aussi la parole à nos auditeurs qui sont massivement à l'écoute alors, pour participer à ce débat. Et donc, ils peuvent nous appeler sur le 22 21 33 114 91 36 63 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 74 91 36 63 75. C'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. Premier auditeur que Michel Tomega insère. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom?
Oui, c'est Pelé.
Oui, Pelé.
Oh, très bien. Je salue le plateau. Bon, moi, ce que je vais dire toujours, quand des Togolais et surtout des journalistes disent que les Togolais sont fatigués de la politique, mais ils détruisent tout. Hein. Ils détruisent tout parce que quand vous ne pas faire la politique va vous faire. Mais quand on appelle les gens de venir au meeting, les gens ne viennent pas. On appelle les gens d'aller voter, les gens ne votent pas. On appelle les gens de venir à la conférence de bar pour s'exprimer et les gens ne viennent pas. Mais ils veulent quoi? Mais si c'est ceux qui, les partis politiques de la société civile, tout ça là, qui appellent là, ce n'est pas pour eux. C'est pour la population qui est en train de souffrir. Tout à l'heure, je pense que M. Alphonse disait que...
Alphonse, vous voulez dire?
Oui, Alphonse, oui.
Ambroise, plutôt.
Que, Ambroise, je vais dire. Dit que, bon, le Togolais est sérieux, il est respecté, il est éduqué. C'est pour cela que le Togo est toujours premier. On dit qu'il est toujours le premier ici, il est premier ici, parce qu'on ne réagit pas. C'est ça, on ne réagit pas. Et le RPT Unir profite de ça pour faire tout ce qu'il veut. Maintenant, il y a du boulevard devant le RPT Unir de Fognassinde. Pourquoi il ne gouverne pas le pays? Pourquoi il ne constitue pas les routes comme le fait Patrice Talon qui est en train de faire 8 ans au pouvoir? Fognassinde est en train de faire 20 ans. Je l'ai dit toujours, il est né à la présidence. Hein. Mais qu'est-ce qui l'empêche? Est-ce qu'il faut... des grèves, des tout avant qu'il va gouverner bien le pays. C'est la question qu'il faut répondre. Vous, les journalistes, il faut décortiquer ça pour voir qu'est-ce qui empêche Faure de ne pas construire des routes, des écoles, des hôpitaux que faisait tout en Patrice Talon.
D'accord. Merci beaucoup, Pelé, pour votre intervention. 22 21 33 114. Allô? Oui, bonjour. Basile? Oui, veillez aussi un peu la voix parce que nous avons des difficultés à vous écouter.
Pas bien crié, pas... On me dit que je crie. qu'il faut que j'aille crier à mes enfants pour qu'il y ait le BPC. Moi, c'est mes petits-fils qui sont sur le BPC. Pour vous dire que moi, je viendrai toujours pour le débat. Parce que ce que nous, on a enduré, on ne peut pas laisser ça comme ça à nos enfants. Et quand je viens, c'est toujours à cause des journalistes que moi, je vais venir. Parce que c'est vous qui êtes venus débattre. Et c'est à cause de vous que moi, je dois intervenir. Voilà. Je vous lance mes fleurs. Toutes tendances confondues. Et l'homme qui disait que quand on dit quelqu'un, il dit que non, c'est pas le Togo seul. Il a un peu revu son truc à la baisse. Bon, bien aussi. Et pour dire quoi, il faut que nous aussi, Togolais, quand on sort quelque part, on nous dit que, ah, maintenant quand on sort là, on nous regarde de bas en haut. C'est pas bien. Hein? On doit vous dire la vérité. Et c'est les journalistes, entre vous, qui soutenez l'insoutenable. Et moi, je n'ai rien. Moi, je soutiens ceux qui constituent un front contre une constitution, par exemple. Et qui va venir me donner quelque chose? Mais vous qui le faites, on sait que c'est parce que vous cherchez quelque chose à manger.
Oui, mais Basile.
Oui.
Nous avons discuté des sujets ici au Club de la Presse. J'aurais voulu vraiment que vous intéressiez au sujet débattu.
Oui, mais tout ce que vous avez dit, mais ce que je dis là, ça fait partie de ce que vous avez dit.
Oui, mais moi, par exemple, quand vous prenez le sujet de la jeunesse, la promotion de la jeunesse, dites votre avis là-dessus. Je pense que ce serait intéressant.
Ah, c'est ce que vous voulez.
Oui, justement.
Ok, je peux revenir.
D'accord, merci beaucoup Basile. 22-21-33-114-91-36-63-75, c'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce jeudi. Allô?
Allô, bonjour Pascal.
Oui, bonjour, comment vous allez?
C'est Eddie le coiffeur.
Oui, Eddie le coiffeur.
Oui. Oui. Allô, salut à toi.
Bonjour.
Ah, salut.
Oui, bonjour.
Ok, tu as pas... Même parlé, comment on l'appelle, de feu rouge, oui. Au consulat du Sénégal, dans le de l'église baptiste. Le feu rouge qui est là-bas, c'est totalement gâté. Et tu avais encore discuté ici, si, dis un peu, oui. Si on comment on l'appelle, dans du pays, si vous les journalistes, on vous dit d'aller vous. Maintenant 10 millions, tu vas refuser ou bien tu
restes. Décidément, on a des difficultés à écouter Eddie, vous pouvez revenir, mais je pense quand même que la technique va se charger. Madame Essie, bonjour.
Oui, bonjour. Allô?
Oui, allô, j'espère que vous allez bien.
Oui, bonjour à Basile. Derrière Ali et Didier. Bon, et puis Ali Alpha, et à vous tous là-bas.
Merci.
Bon, mais maintenant, vous là, vous voulez quoi, vous les journalistes? Est-ce que vous voulez qu'on demeure dedans comme ça, dans le parti unique? Parce qu'on demeure dans le parti unique depuis 90, hein. Je vous fais remarquer, vous aviez contribué un peu. Hein, vous avez contribué un peu, parce que moi, je vois pas où se trouve le journaliste de l'opposition, surtout des partis nationalistes là, du parti nationaliste. Moi, je ne vois pas. Il n'y a que ces gens-là que vous vilipendez. Surtout depuis 2017, 2018, 2020, le comble de 2020, là. Et on est tous dedans comme ça. Est-ce que c'est bon? Hein? Vous vous attaquez jamais au régime qui nous opprime. Vous êtes dedans aussi, parce que vous devez avoir un budget colossal, hein? Plus qu'au Bénin. Le Bénin n'a rien comme ressources. Mais nous, c'est l'or de l'humanité. Hein, je l'ai dit la dernière fois, vous pouvez avoir 5 milliards, 10 milliards de budget. Hein, et vous êtes là, vous appelez les gouvernants, le premier, comment on appelle le président là? Le premier président, c'est ça?
Madame Essie, Madame Essie,
oui.
Vous avez écouté les sujets sur lesquels nous avons débattu?
rappelle-moi un petit
peu,
parce que moi je suis
fatiguée
aussi.
Ok. Il y a l'insécurité routière.
S'il te plaît. Rappelle-moi de 1 ou 2. Je trouverai toujours quelque chose.
Oui, il y a l'insécurité routière, il y a la promotion de la jeunesse.
L'insécurité routière.
Oui.
Maintenant, on n'a pas de route, on n'a rien. Les feux même ne marchent pas, tout ça là. Et puis on nous amène les radars. Je voulais parler de ça, non? Moi, ça me fait rire, quoi. La façon dont on nous gouverne comme du bétail. Hein? On nous gouverne comme pire que des esclaves, quoi. Et maintenant, Dieu a fait que, quand tu circules maintenant, là, il veut amener les radars pour nous escroquer encore plus, non? Et les feux ne marchent plus. Dieu a fait que les feux ne marchent plus dans l'OMI. Comment ils vont faire avec les radars? On n'a rien à l'hôpital. Pas d'alcool, rien. Maintenant, on ramène des radars, alors qu'on est déjà appauvris. Hein. Ils nous ont appauvris, hein, comme des rats d'église.
D'accord. Merci beaucoup, merci. Madame. Merci. Oui, merci et bonne journée. 22-21-33-114-91-36-63-75.
Al? Oui, mais comme j'ai promis ça, je dois revenir.
Vas-y, et vous êtes revenu.
On a parlé de la jeunesse, c'est ça?
Oui, on a parlé de la jeunesse.
Non. Moi, on n'a pas fait chose au Togo. Au Togo, ici, il faut qu'il y ait une bonne vision de ceux qui vous dirigent. Et puis, vous allez avoir tout ça là. Ceux qui nous dirigent, c'est comment on va rester admis à maintenant. Mais pourquoi vous allez parler de la jeunesse? Il n'y en a pas. Mais, du moins, ce que vous venez soutenir. On change les conditions qu'on ne peut pas changer. Vous venez soutenir ça. Et vous êtes très bien là-dedans. Hein. Quand vous prenez ce cinquième résultat là, vous êtes très content. Voilà, c'est quelque chose que nous devons combattre.
D'accord. Ok. Voilà, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Basile. Et finalement, vous n'avez plus parlé de la jeunesse. Vous parlez plutôt alors de la 5e République. 22-21-33-114-91-36-63-115. Allô?
Allô?
Oui, Papa Sibiti.
Bonjour, mon directeur.
Ah, bonjour, Papa Sibiti. Comment vous allez?
Bonjour, tout le plateau.
Oui, bonjour.
Moi, ce que je vais dire, hier, vous avez parlé de l'éducation des résultats. C'est 30, combien pourcentage?
Oui, c'est 48%.
48.
Pour le BPC.
Bon, j'ai beaucoup à dire comme c'est mon domaine, mais pour la jeunesse, le président de la République, Faure Gnassingbé, il doit faire face à cette jeunesse. En ANAFM, j'ai toujours l'habitude de dire que le président Faure Gnassingbé n'a pas d'opposition. Son opposition, c'est la faim, le chômage. Là où vous êtes, mes directeurs, là, si au lieu de gagner 100 000 francs, on vous donne 1 million par mois, il s'occupe des fonctionnaires, des retraités, des marchands, les commerçants dans la rue, tout ça là. Il peut faire 1000 ans là-bas, personne n'ira demander si le président est là-bas ou non. Mais celui qui va et les abeilles le butent, ça fait son affaire. Donc le président Pognatoué, maintenant qu'il a eu 108 députés, il n'a qu'à prouver, faire tout pour qu'on l'applaudisse comme son papa. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne croient pas à la mort de Gnassingbé. Il y a tellement, du général, compte tenu de ce qu'il a fait. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, papa Sibiti, pour votre intervention. Michel, nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce jeudi. Allô?
Allô, bonjour tout le monde.
Oui, bonjour Nestor, comment vous allez?
Oui, je vais bien.
D'accord, allez-y.
Oui, merci pour les informations, les différents aspects soulevés par rapport à l'apparence, les accidents sur les routes, l'emploi de la jeunesse. La fonction publique dans la plupart des pays d'Afrique est le premier pourvoyeur d'emploi, mais malheureusement au Togo, les concours sont faits, mais les résultats ne sont pas donnés. Vraiment, il faut que nos dirigeants s'élèvent à la hauteur de leurs tâches. La diminution des aliments de base et des coûts téléphoniques. Trouver du travail aux jeunes. Les bonnes conditions d'études pour les élèves, les étudiants et les enseignants. L'inclusivité dans la gouvernance. Dans un État où le souverain en place consacrerait sa vie à l'essor et à la prospérité économique, sociale, professionnelle de ses habitants, il peut faire 1000 ans au pouvoir.
Merci beaucoup, Nestor, pour votre intervention au Club de la Presse. Je pense que vous êtes le dernier auditeur pour le compte lors de cette émission de ce jeudi. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer cette émission de ce jeudi, bien sûr. Elom? Vous avez écouté les uns et les autres hein, se prononcer sur l'actualité aussi, puisque nous l'avons fait, et eux aussi, ils ont ce droit. Je veux bien parler alors de nos concitoyens. Oui. Ils ont ce droit alors de le faire. Ils se sont prononcés aussi sur l'actualité. Quelle est votre réaction?
Non, je crois que, je le dis souvent sur ce plateau, le journaliste n'est pas un super-homme. Le journaliste n'est pas Dieu. Nous vivons les mêmes choses que nos compatriotes. La seule chance que nous avons, c'est que nous avons un micro, nous avons une plume, nous avons un canal à travers lequel nous pouvons nous exprimer. Et nous sommes aujourd'hui aussi, nous sommes réglementés, nous avons des règles que nous devons respecter. Et nous faisons de notre mieux pour que les choses puissent véritablement bouger. Mais à chaque fois que les gens appellent, et les gens ne reconnaissent pas le travail qui est fait chaque jour, mais ils en demandent davantage. C'est le propre de l'homme, oui. Mais je crois quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, et beaucoup de choses d'action, d'écrit, de réactions qui sont faites, qui ont pu transformer beaucoup de choses dans le pays. Et je crois que la presse continue de faire son travail. Et il faudrait que les gens, parce que ces temps-ci, les gens sont vraiment, vraiment, je ne sais pas si je dois dire tendu, voilà. Les gens sont tendus, les gens attendent beaucoup plus du travail du journaliste. Le journaliste n'est pas un super-homme. Qu'est-ce qu'un journaliste peut faire? C'est un homme aussi. Ce n'est pas un extraterrestre. Le journaliste continue de faire son travail. Si vous appréciez quelqu'un particulièrement, vous suivez ou vous avez confiance à quelqu'un qui véritablement défend ou bien s'inscrit dans la vision dans laquelle vous êtes, justement, mais continuez. Pas prier, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, la prière est une force que beaucoup ignorent. Vous comprenez? Le journaliste n'est pas celui à qui il faut se confier ou dire que oui, vous ne faites pas votre travail, vous ne faites pas cela, vous ne faites pas cela. Pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, on porte nos problèmes à Dieu et non aux hommes? C'est parce qu'au-delà des hommes que nous sommes, nous avons des limites. Celui qui n'a pas de limites, c'est Dieu. Si, au niveau de la presse, on ne porte pas suffisamment, selon certains, la voix ou les problèmes de beaucoup, nous avons Dieu. Continuez à plaider auprès du trône pour que nos problèmes trouvent une solution.
Et je suis en train d'écouter le pasteur et l'homme, alors.
Ablas, bon, moi, j'aimerais dire à nos amis qui nous appellent souvent, elle m'a tout dit, hein, ce qu'elle a dit, je m'inscris totalement dans la ligne de ce qu'elle a dit. Et j'aimerais ajouter tout simplement que les auditeurs ne méritent qu'il m'en excuse, mais ils ne savent pas les règles qui conduisent le métier du journaliste. C'est vrai qu'ils aimeraient qu'on porte totalement leur pensée, ce qu'ils imaginent.
Et en bref, des fois, le souci aussi, c'est qu'on ne suit pas l'émission en totalité, ou on ne suit pas les sujets.
On le prend en vol.
On le prend en vol, oui, et rapidement, on se jette là-dedans.
C'est quand on le prend en vol que ça devient dangereux. Et moi, qui m'en excuse, moi, je... Les appréciations, tout ça là, les... C'est pas mon problème en fait. Moi j'ai un journal qui est là devant moi. J'ai mes analyses que j'ai écrites. C'est mon point de vue quoi. Aussi. Mon édito, c'est mon point de vue. Les analyses politiques, c'est mon point de vue. Les sujets de reportage aussi sont des faits qui sont têtus. Mais ce que nous faisons ici habituellement, nous analysons les sujets que vous nous soumettez.
Tout à fait.
Et ces sujets là, chacun donne son avis sur le sujet. Tout comme l'auditeur aussi appelle, il doit donner son avis. Maintenant, nous on ne va pas mettre à la place des gouvernants. Le gouvernant, c'est celui qui doit chercher le mieux-être du Togolais. Mais quand il ne le fait pas, il appartient aux journalistes de critiquer s'il y a lieu et de proposer. Il n'est pas obligé. Mais l'auditeur, lui, comme il n'est pas satisfait là, il doit s'en prendre au gouvernant, pas aux journalistes. Ici, plutôt, c'est nous qui les aidons, c'est nous qui portons leur voix à ce que ce qu'ils veulent soit réglé. Malheureusement, les gouvernants font certains, il y a la plupart qui ne sont pas faits. C'est ce qui nous attire, nous les ennuis. Parce qu'ils se retrouvent, on ne voit pas Fong Yassine tous les jours. Mais on voit Mbosse manger tous les jours. On l'entend tous les jours. Tu vois? Et quand c'est lui qu'on entend là, il faut tout le ressasser pour qu'on lui transmette à Fong Yassine.
D'accord, merci.
Donc c'est ce que nous vivons. Mais je tiens quand même à dire que moi je les encourage à continuer, mais dans le respect quand même du métier que nous faisons.
Tout à fait.
Parce qu'il y a des règles. Que nous respectons. Même à l'université, il y a des règles.
Et il faut surtout des propos courtois.
Oui. Et il faut nous envoyer, il faut nous encourager plutôt à vous aider.
Et à vous servir.
À vous servir, à ce que le gouvernant aussi répondre à vos aspirations.
D'accord, merci Ambroise. Oui, Magula.
Oui, je m'inscris également dans la dynamique de ce que l'homme et Ambroise ont dit. Et je veux pas me répéter. Sinon, quelque part, vous savez, il n'y a pas plus complexe qu'être journaliste, surtout dans nos sociétés. Parce que chaque prise de position, vous vous faites des ennemis, vous vous faites des amis sans le savoir. Mais ça, on parle de ligne éditoriale. Il faut que des gens s'approprient ces principes. Et on fait de notre mieux en tant que journaliste. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ambroise a traité d'un sujet sur les tricycles. On a débattu. On a ressassé un peu les différentes causes. Maintenant, dans la faisabilité ou dans la recherche de solutions, on a effleuré des pistes. Mais celui-là, qui doit agir, c'est l'autorité. On a parlé du problème de la jeunesse, l'épanouissement de la jeunesse. On a dit des choses. Mais l'entité qui doit agir pour changer la donne, c'est l'autorité.
Voilà, donc on pense que nous avons une baguette magique entre les mains, nous les journalistes.
C'est peut-être l'erreur. On a ici parlé de la mobilisation qu'essaie de refaire la France et de la société civile et une partie de l'opposition. On a estimé que c'est de bonne guerre. Mais qu'est-ce qu'on veut qu'on dise encore de plus? Je n'en vois pas, si ce n'est pas peut-être une obsession de tirer à toutes les fois sur la presse. Bon. Mais, comme je l'ai dit en début d'émission, nous sommes des soldats de la République.
Tout à fait.
On prend tout ça comme des conseils, on avisera. L'essentiel, c'est le Togo seul que nous avons en patrimoine.
C'est très
important. Chacun travaille pour l'amélioration des conditions de vie.
Merci beaucoup, Magula. Merci, Magula. Votre note de fin d'émission.
Bon après-midi surtout à tous les auditeurs.
Merci. Hello.
Non, je n'ai pas de note.
Ambroise.
Bon appétit. Moi, je profite pour saluer un ami qui est en France. Joseph Dalméda, qui nous suit, actuellement.
D'accord, Joseph, salut à toi.
Et notre ami de Danemark,
Richard.
Et autres.
D'accord, justement, ils nous suivent alors sur nos différentes plateformes digitales. Merci à vous tous. Elom, merci d'avoir participé à cette émission. Ambroise, merci. Magula, merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à vous qui avez participé aussi à cette émission. Michel Tomega a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouta a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau, je vous retrouve demain, vendredi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. Portez-vous bien. Au revoir.